Comme Céline qui nous emmène au sud du Massif central.
Après quelques virages en lacets, nous débouchons sur le Causs. La chaleur est étouffante, à peine apaisée par quelques souffles d'air brûlants. C'est une lande désertique, un paysage quasi lunaire, qui contraste avec la verdeur touffue des forêts de châtaigniers qui nous entourent. Nous cheminons sur un sentier presque effacé, sur la terre ocre et poussiéreuse.
France Inter, chacun sa route.
C'est un voyage géographique. La Côte d'Ivoire, le Maroc, le Vietnam, la France. C'est aussi un voyage imaginaire, berceau de grands récits qui nous transportent jusque dans notre enfance, notre adolescence. Ce sont des mots, de la poésie, des tartines au sésame et un rapport à la mémoire. Notre invitée est une rockstar de la littérature jeunesse. Ses ouvrages se vendent à des dizaines, voire à des centaines de milliers d'exemplaires. Il a reçu tellement de prix que je n'ai pas réussi à les compter. Peut-être que lui saura nous renseigner. Il est le père de Toby Lulness et de Van Gogh. Le premier tome de sa nouvelle série Alma, Alma, le vent se lève est sorti au mois de juin. Il a aussi écrit pour le théâtre et un roman pour adultes sur l'enfance, Neverland, dont il a choisi, pour démarrer cette heure que l'on va passer ensemble, de nous lire un extrait.
Élodie Font, chacun sa route, sur France Inter.
Je suis parti un matin d'hiver en chasse de l'enfance. Je ne l'ai dit à personne. J'avais décidé de la capturer entière et vivante. Je m'étais équipé comme un chasseur de dragons ou de chimères. Impossible de savoir ce dont j'aurais besoin. J'avais prévu les sarbacanes, les potions, les casiers, les filets, un petit cheval assez rapide, des fléchettes qui endorment, et même les brosses de soie et les petites cuillères dont se servent les archéologues pour déterrer des trésors anciens sans les abîmer. J'étais le chercheur d'or, le chasseur fou, illuminé par ce rêve. Je marchais sur le chemin étroit avec mon cheval. Les épuisettes se dressaient dans mon dos comme un bouquet de drapeaux. Il existe des filets à la trame assez large pour ne prendre que les gros poissons. Mais quelle maille ne gardera que les petits? Qui l'inventera? Comment attraper l'enfance seule et ne pas l'écraser au fond du filet sous le poids des grands qui étouffent tout?
Quelle belle lecture, vous m'avez émue. Bonjour Timothée de Fombelle.
Bonjour Élodie Font.
Je reprends un peu ma respiration. C'est un extrait de Neverland, je le disais, votre roman sur l'enfance. Vous l'avez capturée entière et vivante, vous, l'enfance?
Le seul moyen de la capturer, c'était de la cartographier, sans vouloir revenir à vos obsessions de la route, là, depuis quelques semaines. C'est-à-dire de l'écraser sur le papier, alors que c'est du temps, l'enfance, et le temps, on ne peut pas le revisiter. Il paraît que c'est un chemin sans retour. Et donc je l'écrase et j'en fais un territoire dans ce roman Neverland. Et à partir du moment où c'est un territoire, je peux y marcher, je peux y revenir. Et donc ça devient un lieu de promenade ou de pèlerinage ou d'aventure.
Et c'est un lieu où vous pouvez vous promener à l'intérieur de vos souvenirs ou c'est un lieu imaginaire?
Alors c'est quand même le cobaye que j'avais en main, le seul que je maîtrisais vraiment, c'était moi. D'ailleurs, j'ai pas pensé une seconde, j'avais ma fille qui grandissait à côté de moi, qui avait exactement l'âge dont je parlais au moment où je l'écrivais, et je pensais même pas à elle, parce que c'était l'enfant en moi que je cherchais, l'enfant qui est toujours en moi. Donc il y a une grande part d'imaginaire quand je pars avec mon petit cheval à la recherche de l'enfance. Je suis pas le d'ailleurs, ce serait plutôt le Sancho Panza que le l'aventurier fier. Mais je pense que c'est aussi un voyage dans l'espace malgré tout, parce que j'ai toujours les lieux à portée de main, les lieux où j'ai grandi.
Il y a des choses de votre enfance dont vous voulez absolument vous souvenir?
Que vous voulez absolument garder, Timothée de Fombelle ?
Oui, mais c'est pas un effort de le maintenir, c'est plus une manière de curer le canal quotidiennement, peut-être aussi en écrivant des histoires pour les enfants. Je garde en vie, je déblaie, ce chemin-là. Je suis, je coupe les orties, et c'est comme ces petits sentiers de chèvres là dans les alpages où on se demande comment ils sont tracés aussi clairement par des chèvres sans berger. Et c'est ça, je le maintiens ouvert. C'est peut-être ça qui, la mémoire, c'est ça. C'est garder les chemins ouverts.
Vous faites confiance à votre mémoire ?
J'ai une très mauvaise mémoire, ça qui est incroyable. C'est vraiment, je me souviens pas de ce que j'ai lu hier. Je me souviens pas de par chance j'ai dit votre nom sans l'écorcher tout à l'heure.
Il est court.
Voilà, il est
beaucoup
court.
Plus court que le vôtre.
Oui, plus court que le mien. Ça, alors là, c'est Albin de la Simone là qui parle de son nom à rallonge, qui s'éloigne quand il s'avance ou quelque chose comme ça. La mémoire. Je pense que je suis même pas sûr que l'enfance est dans la mémoire, quoi. Je pense qu'elle est plutôt en nous. La mémoire, c'est autre chose. Voilà, c'est apprendre des textes par cœur. Et j'ai une mémoire charnelle des choses.
Alors, vous allez nous emmener dans vos souvenirs charnels et notamment vos souvenirs de voyage charnels, puisque vous avez beaucoup voyagé enfant. Votre père était architecte et urbaniste, et avec vos nombreux frères. Que des frères, hein, c'est ça ?
Non, une petite sœur.
Ah, une petite sœur,
à la fin.
Et vous êtes cinq en tout,
ouais,
quatre
ouais,
frères,
ouais.
Et enfin, ils en ont fait jusqu'à ce que vous...
Oui, mais en fait, ils ont fait un voyage pour la voir, parce qu'elle est indienne, et que mes parents sont allés la chercher, faire cette aventure-là de l'adoption. Donc non, ils ont même renoncé à avoir une fille par leurs propres moyens.
Ah, c'est beau comme histoire d'être allé la chercher. Vous suiviez donc vos parents qui allaient dans de nombreux pays puisque votre père faisait des chantiers à l'international. Quel est votre premier souvenir de l'ailleurs ?
Alors, c'est je pense le Maroc. J'ai vécu une année au Maroc à un âge où pour le coup la mémoire n'est pas vraiment en marche dans le cerveau, mais elle est là dans les narines, dans l'oreille, dans le bruit. J'habitais à Agadir et là j'ai des souvenirs qui sont des souvenirs sensuels, sensibles, qui sont, mais tout à coup là je vois l'arrondi du mur à la chaux de la maison.
Blanche.
Voilà, blanche, de la maison blanche, petit cube blanc comme ça, ou du petit escalier qui monte, que je montais à mon avis à moitié sur les genoux, à moitié debout. Et ça, c'est des souvenirs de l'école. Je me souviens, alors là aussi, c'est vraiment vous qui allez chercher ça en moi. Je me souviens de l'odeur de la maîtresse. Alors, vraiment, vous voyez où vont se nicher les souvenirs. Je me souviens de la maîtresse qui se penche sur moi pour regarder mon dessin. Voilà,
quelle chance. J'envie tellement les gens qui ont ce genre de mémoire, mémoire des sens.
Ouais, mais c'est ça s'entretient un peu, hein, ça s'entretient un petit peu. Justement, c'est ce que je disais, c'est garder les sentiers ouverts. Je crois pas que ce soit un don surnaturel, vraiment.
Je crois qu'il y a les tartines au sésame aussi que dont vous vous souvenez au Maroc.
Dans le souk, il y avait le pain. C'est pain un peu aplati parce qu'ils étaient empilés là qu'on allait chercher. Et il y avait ce pain au sésame et le sésame grillé. Mais le goût du sésame grillé, c'est comme la fleur d'oranger dans la corne de gazelle. Ça, c'est des choses. Ouais. C'est alors là, Proust peut aller se rhabiller avec sa Madeleine. Moi, là, c'est quelque chose qui me fait traverser la Méditerranée en une seconde.
Vous avez fait un voyage Madeleine de Proust, tartine au sésame, un peu ouais, plus âgé. Vous aviez ouais, une vingtaine d'années, 20
voilà,
ans.
Voilà, exactement. Ouais, j'y suis retourné avec l'impression que tout est plus petit que dans les souvenirs, que tout est peut-être moins vibrant que dans les souvenirs, mais heureusement on continue à se les créer, les souvenirs. Donc c'est plutôt ça, on est une machine à fabriquer des souvenirs.
Vous avez aussi grandi une partie du temps en Côte d'Ivoire. Vous habitiez où exactement ?
Alors, J'habitais à Abidjan, donc au bord de la lagune en Côte d'Ivoire, et j'habitais dans le quartier de Cocody, quartier le quartier français, mais on s'en échappait beaucoup. On s'échappait pour aller visiter d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest, pour aller découvrir le nord de la Côte d'Ivoire ou la côte. J'avais 12, 13 ans, 14 ans, et c'est là aussi qu'il y a eu une expérience extrêmement forte qui a inspiré une histoire que j'ai écrite récemment qui s'appelle Alma. Et parce que je suis allé jusqu'au Ghana et j'ai exploré la côte du Ghana avec mes parents et ces forts, ces forteresses là où étaient triés les esclaves qui embarquaient à travers l'Atlantique. Et voilà, tous ces souvenirs là. C'est ma matière première dans mon écriture au quotidien. Je ne sais pas quand j'arrêterai quand ce sera épuisé, quand le puits sera tari et que je pourrai dire « bon, maintenant, je m'inspire que de mon présent ».
Il n'a pas l'air tari, en tout cas, quand vous en parlez comme ça. Est-ce que vous viviez à l'époque dans le quartier des expatriés, quand vous étiez au Maroc, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où vous étiez intégré différemment aux villes ?
Alors, je vais pas me cacher les yeux sur le fait que je vivais, que je vivais malgré tout comme quelqu'un comme un expatrié, voilà. Mais il y avait quand même cette idée des parenthèses. Une famille qui allait de pays en pays comme ça. C'était des parenthèses. D'ailleurs, toute mon enfance est. J'ai l'impression qu'elle est structurée par ces voyages. C'est assez rare voyage, hein, le Maroc, la Côte d'Ivoire, puis ensuite à la sortie de l'enfance, le Vietnam. Et c'est comme des pylônes, des poteaux qui structurent mon enfance. Je sais, c'est pas avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Pour moi, c'est avant Abidjan ou après Abidjan, avant Agadir ou avant Hanoï. Oui. C'est comme ça que ça se structure. Et donc, comme c'était des parenthèses, on pouvait se permettre de ne pas recréer ce microcosme entièrement européen que font pas mal les expatriés, et ça peut être explicable, et d'autres étrangers en France le font en France, et voilà. Mais donc j'étais au collège Jean Mermoz, qui est le collège franco-ivoirien, et j'étais pas dans le lycée français, et donc on essayait vraiment de découvrir, d'aller à la rencontre de ce pays.
Et quand vous reveniez en France, est-ce que le décalage était fort? Par exemple, si vous êtes revenu en France, vous aviez 15 ans, arrivé au lycée à ce moment-là. J'imagine que après 2-3 ans en Côte d'Ivoire, le choc est quand même assez intense.
Je me souviens qu'en arrivant, c'était en classe de seconde à Paris, qui était le lieu où j'étais né, hein, et où j'étais toujours revenu. Franchement, je n'ai pas bougé de 3 rues depuis ma naissance, à part ces parenthèses-là. Et je me souviens que je me suis mis, par exemple, à regarder la ville autrement. Et là, je me suis retrouvé un peu en voyage chez moi. Je me souviens du jour où j'ai levé la tête, levé les yeux, et j'ai commencé à regarder les immeubles, par exemple, regarder les façades, regarder les toits de Paris. Et alors que je pense que l'enfant regarde ses chaussures beaucoup, ou regarde autour de lui tout ce qui est à hauteur de ses yeux. Et donc j'ai en effet, et je me souviens que mon père aussi est revenu, s'est retrouvé à l'IAURIF, l'Institut d'aménagement de la région Île-de-France, là où il travaillait quand il était en France. Et il a retrouvé son bureau, il y avait le stylo qu'il avait laissé 2 ans avant, qui était au même endroit. Il avait un cahier ouvert à la même page. Et là, il s'est dit, et il a quitté cet institut à ce moment-là, parce qu'il s'est dit, c'est quelque chose qui ne bouge pas pendant 2 ans, alors que j'ai tant traversé de choses, ça va pas.
Il faut être un peu plus dans le mouvement, en tout cas. Ouais. Timothée de Fombelle, on reste, si vous le voulez bien, dans le monde de l'enfance, avec l'univers en bande dessinée de Gorillaz. Une chanson qui date du début des années 2000, où Chacun sa route n'existait pas encore, loin de là, et quand certains de vos lecteurs n'étaient pas encore nés, 19-2000 sur France Inter.
The world is spinning too fast. I'm fine that I can choose to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. It's the music that we choose.
a fake trail. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on.
Get the cool.
L'auteur jeunesse Timothée de Fombelle est notre invité, chacun sa route, jusqu'à 15h sur France Inter. Timothée de Fombelle, est-ce que les bulles de voyage dont vous nous parliez tout à l'heure, le Maroc, la Côte d'Ivoire, quand vous étiez plus jeune, même quand vous étiez enfant pour le Maroc, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'écrire ?
Je pense que l'écriture vient plus de la répétition, des racines, des retours, que de ces parenthèses-là. Ça m'a ouvert mon horizon, c'est certain. Mais je suis quelqu'un qui aime revenir dans les lieux. Et l'écriture a quelque chose de cette patine-là. Moi, j'aime créer une sorte de patine du retour. Finalement, les étés, le retour des étés. À la campagne ou au bord de la mer, dans les mêmes lieux qu'on connaît par cœur, m'ont peut-être plus marqué que ces parenthèses qui sont, encore une fois,
des bulles et des
poteaux de construction de cette enfance qui permettent de tenir, de dater, qui permettent aussi de mettre en perspective, de se rendre compte de qui on est. En regardant l'autre. Donc oui, en fait, j'ai commencé par dire non et finalement je termine en disant oui. Je pense que ça a décidé des choses. D'abord de ma langue aussi. Même si ces voyages-là ont été dans des pays qui étaient assez francophones, voire très francophones, j'étais un peu exilé de ma langue malgré tout. Ça m'a donc fait découvrir aussi la lecture. Au Maroc, j'ai découvert le Petit Prince, par exemple, que mon père nous lisait. Ma mère était partie parce qu'elle devait accoucher de mon quatrième frère, enfin du quatrième des frères. Et on restait et on avait chaque jour quelques pages du Petit Prince lues par notre père. Je connaissais pas la lecture, je lisais pas encore, et je voyais le livre du Petit Prince comme un petit animal vivant qui attendait dans la journée et qui se réveillait le soir. Donc c'est quand même d'être loin de mes bases, loin de mes racines qui m'a donné ce goût des territoires de papier, on va dire.
Vous écrivez, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le livre était quelque chose de vivant et mystérieux qui ne s'active que s'il est ouvert. Je trouve ça très joli.
Mais je crois à ça, au livre comme organisme vivant, comme petit. D'ailleurs, il cherche aussi l'endroit où il va pouvoir pousser. Moi, je sens mes livres ils veulent exister. Ils trouvent le moment, ils trouvent le petit coin de terre dans le béton là où ils vont pouvoir pousser.
Vous avez étudié les lettres? plus tard, après le bac. Et puis, vous avez arrêté vos études pour vous rendre au chevet de votre père et passer avec lui les derniers mois de sa vie. On était la semaine dernière avec la photographe Charlotte Abramoff qui nous racontait comment elle avait accompagné les dernières années de la vie de son père en photographie. Pour vous, ce voyage-là, d'accompagner quelqu'un de cher vers le plus grand ailleurs, cela a influencé votre travail par la suite ?
Oui, c'est sûr. C'est un... c'est la grande blessure d'une vie, la perte de voilà la perte d'un père ou la perte à assez jeune, même si je n'étais pas un enfant, j'avais 20 ans et des poussières.
C'est jeune.
Mais c'est jeune quand même, c'est trop jeune. Mais j'ai eu l'impression, alors j'ai senti tout de suite que c'était un privilège de pouvoir être là. J'ai des frères qui étaient un peu par Mons et par Vaux à ce moment-là, ou qui ont pas pu vivre ça, et je sens pouvoir un peu tout lâcher pendant la durée d'une maladie que l'on sait grave. J'ai senti que c'était une chance extraordinaire, et ça a d'ailleurs, ça a par avance pensé des blessures qui allaient arriver après. C'est ça qui est très très mystérieux. J'ai des carnets de notes que je prenais à côté de son lit. Il m'a dit des choses aussi, des choses qui, voilà, je me souviens quelques jours, trois jours avant sa mort, d'une phrase qui me dit, où il me dit, quel con j'ai été de pas avoir plus créé. Et alors ça, je peux vous dire que ce genre de viatique là, ces phrases qui se gravent pour une vie, parce que qu'est-ce que je voyais quand je voyais mon père ? Depuis toujours, c'était un créateur. Il n'arrêtait pas de créer, de bricoler, de fabriquer. Il a fabriqué sa propre maison, son jardin. Il fabriquait tout. Il faisait aussi bien de la plomberie que de la maçonnerie. Il savait tout faire. Et pourtant, son constat, c'était ça. Donc, ça a mis la barre très haut sur la quantité de création qu'il faut mettre dans sa vie. Et donc, je pense que j'y ai pensé à un moment, j'ai enseigné quelques courtes années, et le moment où je me suis dit, avant même que ce soit vivable, de pouvoir arrêter d'enseigner, et bien avant que ce soit vivable, c'est-à-dire j'avais normalement besoin de continuer à enseigner, mais j'ai lâché avant pour avoir ce vertige du saut dans le vide et me dire ce sera la création qui sera le cœur de ma vie.
J'aimerais bien que vous nous emmeniez, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, Timothée de Fombelle, dans votre imaginaire, dans la manière dont vous créez justement un imaginaire. Quand vous créez un monde, vous commencez par quoi ?
Alors, ça vient de sous moi. Là, je suis en train de faire un geste qui ne se voit pas à la radio, mais c'est quelque chose qui apparaît lentement, que je fais comme si je le voyais pas au début. C'est le projet, c'est ce projet là qui naît des années avant que je commence à l'écrire. Il est là, présent, et il se rappelle à moi alors que j'en écris d'autres qui s'étaient annoncés quelques années avant encore, et qui deviennent, et à un moment il y a l'urgence et la nécessité. C'est ça qui me dirige pour écrire, quand je peux plus faire autrement qu'écrire. Alors comment ça se passe? Très souvent c'est une scène, un personnage, pour parler d'Alma par exemple, c'est ce souvenir peut-être de ce jour là dans le fort d'Elmina au Ghana à 13 ans, ce souvenir qui m'habite, où je marche sur la croûte du sol dans les sous-sols de cette forteresse où des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'esclaves étaient passés pendant des siècles jusqu'en 1850, et le souvenir de ce craquement du sol sous mes pieds qui me hantait depuis 35 ans. Et je savais que je l'écrirais un jour, ce livre. Et puis voilà. Et là, donc, il y a un personnage. Et puis ensuite, d'où il vient, où il va, quelle est sa famille. Et c'est encore une cartographie. Je commence à construire ce réseau, cette toile d'araignée qui va faire son histoire. Qu'est-ce qui le fait courir? Qu'est-ce qu'il cherche? Où va-t-il? Et voilà, et ça devient un grand cahier dans lequel il y a des flèches et des noms de personnages, des destins, parce que j'arrive pas à faire des personnages secondaires, donc les personnages secondaires deviennent des personnages principaux, donc il y a des centaines de personnages qui sont là sous mes mains.
Et quand vous écrivez ces mondes imaginaires, est-ce que vous avez l'impression de vivre dedans ?
Ah oui, je suis chaque personnage, ce qui fait que je les décris pas d'ailleurs. Je réalise, je décris très peu mes personnages, mais parce que je suis tellement dans leurs yeux, comme dans un jeu vidéo, j'avance, que je vais pas penser à me décrire moi-même. Je suis Alma, quand elle pagaie vers le navire, la douce Amélie qui va l'embarquer vers les Caraïbes, ou bien je suis Van Gogh dans un autre roman qui grimpe sur la façade d'un building de New York, où je suis Toby Lolness dans son arbre. Je mesure 1,5 mètre comme Toby, et il y a quelque chose, il y a quelque chose de moi dans chacun des personnages.
Et vous y retournez de temps en temps dans ces mondes, quand dans le monde qui nous entoure, celui qui est là entre nous.
Je suis plutôt dans les mondes de demain, les mondes futurs, les mondes que je construis. J'ai tendance, évidemment, il y aurait la tentation de faire un Toby Lolness 3, parce que quand même les deux premiers, ça s'est bien passé pour le petit Toby. mais non, enfin j'ai toujours besoin d'avancer, mais la continuation de la vie des personnages par la lecture, et par la lecture en plus des jeunes lecteurs qui sont des caisses de résonance pour ces histoires extraordinaires. Ils vivent tellement ce qu'ils lisent. C'est une consolation immense. C'est-à-dire le fait que chaque jour, peut-être, un enfant se met à lire une de mes histoires passées. C'est, je veux pas parler d'immortalité, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la consolation.
Ouais. Mais est-ce que vous, dans votre vie de tous les jours, cette frontière entre guillemets entre l'imaginaire et les mondes imaginaires que vous créez et votre monde de tous les jours, est-ce que parfois la frontière est un peu poreuse?
Ah oui, ça faudrait presque interroger mes proches sur l'état dans lequel je suis. Pourtant, j'ai un atelier où je vais pour pouvoir fermer la porte le soir, baisser le rideau de fer et me dire voilà, je laisse mon histoire dans mon petit atelier et je rentre chez moi. Mais non, j'ai dans la rue, j'ai une quinzaine de personnages qui me suivent, qui prennent un vélib derrière moi et qui se glissent par la porte quand je rentre dans mon appartement. Il y a quelque chose d'impossibilité d'avoir ces compartiments étanches là dans une vie d'auteur. Donc oui, je rêve de mes personnages et je me réveille le matin avec eux.
Pour écrire le prochain tome d'Alma, vous projetez d'aller dans les Caraïbes. On va en reparler pour vous imprégner d'un lieu et pouvoir le décrire au mieux. On va y aller ensemble d'abord dans les Caraïbes, si vous le voulez bien, avec David Walters Bouedlot. Vous écoutez Chacun sa route avec l'auteur Timothée de Fombelle sur France Inter.
Say so, yeah, yeah. Bueno, but baby, what I say so, yeah, yeah. promises.
David Walters sur France Inter. Vous écoutez Chacun sa route. Et tous les jours, un peu après 14h30, c'est vous, oui vous, qui êtes en train de courir, en train de faire la sieste, en train de jouer aux cartes pendant que votre enfant dort. C'est l'un de vous qui nous racontez votre ailleurs, un moment qui vous a particulièrement marqué. Pas tout un voyage, mais un moment dans un voyage. Racontez-nous le répondeur, 01 56 40 68 68. Mon mail, elodie.fond@radiofrance.com. Et aujourd'hui, Tiphaine nous emmène dans un voyage improbable. Venez, Timothée de Fombelle, on part au Canada.
Je m'appelle Tiphaine et quand j'avais 20 ans, j'ai fait un stage dans une radio locale en Ardèche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un Canadien, un membre d'un groupe de musique folklorique, qui arrivait et que je devais faire patienter avant qu'il passe à l'antenne. Et dans la conversation, je lui dis « Voilà, moi j'aimerais bien un jour partir au Canada. » On se parle et puis à un moment il me dit « En fait, nous on est un groupe, comme tu sais, de musique folklorique, on vit dans le Manitoba, donc à Winnipeg. Bah, viens faire un stage et puis nous on t'accueille, on te loge, on te fait visiter comme tu voulais, on te paye une partie du billet et toi en échange, bah, tu nous aides comme tu peux. » Donc je dis « Bah d'accord ». Et du coup, je suis partie un an après cette rencontre avec Guy. C'était la pianiste du groupe qui me logeait. Elle était non-voyante et elle m'a appris le braille. Je voyais qu'elle jouait du piano, je trouvais ça incroyable. Une personne aveugle qui arrive à faire tout ça, ça m'a ouvert les yeux sur ce handicap. Et je l'accompagnais au concert, je les enregistrais dans leurs répétitions pour faire des tests, j'essayais de réfléchir avec eux au logo. J'étais seule parmi une grande famille canadienne. J'ai été interrogée par la radio. Le groupe de musique m'avait offert des places pour un festival et il y a le journal de 20h qui est venu m'interviewer pour me dire voilà, la petite française qui vient. Une fois, je les avais accompagnés aussi dans un studio d'enregistrement et puis j'avais voulu tester le piano. J'avais commencé à jouer Amélie Poulain. J'ai l'impression que tout le monde jouait Amélie Poulain. Et il y a un producteur qui passait par là et qui a dit « Qui est-ce qui vient de jouer ?» Je dis « Bah, c'est moi !» Et il me dit « Mais ma femme, c'est sa chanson préférée. Elle adore Amélie Poulain, elle adore le film, ça lui fait trop penser à la France. C'est génial ce que tu joues, c'est son anniversaire, je voudrais lui faire une surprise, on va t'enregistrer sur un vieux piano, etc. » Donc il m'a fait sortir mon petit disque de deux chansons. Je me mêlais toujours aux activités de la famille. Et puis Guy m'avait proposé « Viens à mon entraînement de baseball ». Il m'a dit « Vas-y, j'ai trop envie que t'essayes, il faut pas que tu partes avant d'avoir essayé le baseball, ici c'est vraiment cool le baseball ». Et là, je tire et chance du débutant, je fais un super coup, un home run je crois qu'on appelle ça. Je fais gagner tous les points à mon équipe, donc à partir de ce moment-là, il me voulait dans l'équipe, donc je faisais partie aussi d'une équipe canadienne de baseball. Donc j'avais enregistré mon CD, je faisais partie d'une équipe de baseball, j'étais passée dans les médias et tout ça en l'espace de 2 mois. Ils m'ont fait des soirées de départ. Et voilà, cette expérience a été incroyable parce que je me suis sentie libre pour la première fois de ma vie. Je me disais, waouh, je pars toute seule. Il y a une phrase qui dit « Le voyage, c'est la seule chose qu'on achète et qui nous rend plus riches ». Et je crois que ce voyage au Canada, c'est ça qui m'a appris. Riche en souvenirs, riche en amour, riche en expériences, riche en aventures et riche en liberté. Et je crois que c'est une valeur qui est ancrée aujourd'hui chez moi, c'est la liberté.
Voyage improbable. Timothée de Fombelle, vous avez déjà été accueilli ailleurs autrement que ce que vous aviez envisagé ?
Oui. Ça m'est arrivé quelques fois. Je me souviens d'un jour, on était parti. J'habitais donc au Vietnam vers l'âge de 25 ans. J'enseignais 2 années à l'université là-bas à des jeunes Vietnamiens qui voulaient enseigner le français et à l'école normale des langues étrangères. Et on était parti avec un ami Paul dans le nord du Vietnam, dans les montagnes, à la frontière de la Chine, dans des endroits très peu recommandé en fait, mais on le savait pas, ou on faisait semblant de pas le savoir. Et un jour, on avait pris une sorte de pirogue sur une rivière que deux paysans avaient accepté de nous emmener. C'était vraiment à 1000 milles de toute terre habitée, comme dirait Saint-Exupéry. Et on devait arriver normalement dans la journée, et finalement impossible d'arriver dans la journée. Et on commence à faire nos mauvaises têtes. À engueuler le type, et là, y compris, et le type nous dit non, là, vous m'engueulez pas, parce que sinon je vous enterre là et personne ne saura que vous êtes là. Et okay. Alors là, on a compris, ça calme un petit peu, et on est resté bien sage, et on s'est arrêté dans une maison. Il y a une petite lueur pendant dans la nuit qui s'est allumée au-dessus de la rivière, au-dessus du torrent, et on est monté par un tout petit sentier. On avait remonté légèrement la pirogue, et on a été dormir chez un Hmong, donc un Hmong isolé. Parfois les Hmongs, donc c'est ces minorités, il y a une cinquantaine de minorités ethniques dans tout le nord du Vietnam, et on a dormi dans la maison de ce Hmong qui vivait seul avec la famille idéale, sa femme, le bébé, le cochon, le chien, le chat, deux poules, et dans une maison enfumée, ce qui est une petite cabane en paille complètement enfumée, et là il y a eu un accueil mais extraordinaire, un accueil muet, parce que personne ne connaissait la langue de personne. Et il n'avait pas vu, à mon avis, des gens comme nous depuis, enfin, jamais d'ailleurs. D'ailleurs, il disait, mais on a entendu, notre piroguier, notre méchant piroguier, lui dire, mais tu vas au village quelquefois, et il dit, une fois par an pour le Tet, là, le nouvel an vietnamien, je vais acheter, pas de la viande, mais acheter des gâteaux dans un village qui est à 4 heures de route. C'est le seul moment où il se mélangeait avec les autres. Cette nuit-là, elle reste, mais là aussi, c'est cette odeur. On était tous fumés comme des saumons à la fin de la nuit, et on est reparti et on est arrivé vivant, parce que, résultat, je suis là quelques années après.
Ouais. Timothée de Fombelle qui nous disait tout à l'heure qu'il avait une mauvaise mémoire. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir envie d'avoir votre mauvaise mémoire. En 2006, vous écrivez votre premier récit jeunesse, Toby Lawlness, qui est un succès mondial, et encore quand je dis succès, le mot est faible. Il vous arrive de rencontrer des lecteurs étrangers ?
Oui, je me balade un peu. C'est d'ailleurs la dimension qui n'était pas prévue dans ce métier d'auteur, que je croyais solitaire, à écrire, dans sa thébaïde, tout seul. Et en fait, non, il y a un moment où, et c'est un grand bonheur, où on a le lecteur en face de soi. Et d'ailleurs, à chaque fois, quand je vois les yeux, mais complètement brillants, d'un enfant qui pose son gros livre, là, parce que parfois c'est des aventures au long cours que j'écris, et qui pose ce livre devant moi avec les yeux, mais vraiment éclatants, à chaque fois, j'essaie de pas prendre pour moi le compliment de cet enfant éclairé par ce livre, parce que en fait, c'est la rencontre avec la littérature qu'ils font. Et c'est vrai aussi à l'étranger, alors que j'ai l'impression que ma langue, c'est mon pays, c'est ma langue. Et pourtant, mes livres voyagent et sont traduits. Et quand je les rencontre, on parle du même livre, alors qu'ils l'ont lu dans une autre langue.
Et dans l'équipe de Chacun sa route, il y a un de vos lecteurs étrangers, un jeune Italien.
J'ai 23 ans, je suis Italien. Et je me souviens que pour mon anniversaire de 13 ans, on m'a offert ce magnifique livre qui était Van Gogh. Et moi, je ne connaissais pas du tout l'auteur, mais je me suis plongé dedans parce que à l'époque, je lisais beaucoup de livres et j'aimais beaucoup l'histoire. Du coup, le livre, il conjuguait parfaitement ça. Mais surtout, le nom de Timothée de Fombelle, il était tellement bizarre pour moi en tant que garçon italien que j'ai pensé que lui aussi, il faisait partie un peu d'un conte de fées, un peu d'un monde imaginaire. Je garde un très bon souvenir et encore maintenant, je pense que je serai capable de lire un de ses bouquins, même si j'ai plus de 20 ans.
Il s'appelle Tommaso. Est-ce que vous pensez parfois à comment vos lecteurs vous imaginent et comment vos lecteurs du monde entier se font une idée en partant de votre nom qui, effectivement, est assez poétique?
Oui, souvent, d'ailleurs, on me présente parfois comme du nom de mon personnage, Toby Lawlness, et le titre du livre serait Timothée de Fombelle. Alors que moi, j'aurais peut-être dû prendre un pseudo pour justement gommer un petit peu ce nom à rallonge. Mais c'est vrai que moi, j'essaie de me souvenir quand je lisais Dumas ou quand je lisais, est-ce que je pensais à l'auteur? Je suis pas sûr que je pensais tellement à l'auteur. Je pense qu'on est bien planqué derrière nos livres. Quand auteur jeunesse, on est moins important que nos héros. Mais c'est vrai que, par exemple, je me souviens, l'Italie, ça a été la première langue de traduction de mon premier roman. Et je suis arrivé et j'ai vu tous ces enfants qui avaient sous le bras le petit Tobia. Et je me disais, mais c'est extraordinaire de penser que mes livres rentrent dans les chambres, dans les maisons, et que la mama appelle pour dire viens manger la pasta, et que l'enfant réponde non, je lis Tobia, et tout ça. Et je trouve, on rentre dans des choses très intimes, et c'est une chance qui est aussi une pression, parce que voilà, ça donne des responsabilités.
Vous imitez bien les Italiens, en tout cas. Mama, la pasta, je pense que c'est bon, on les a tous. Vous partez, on en parlait tout à l'heure, on en a juste dit un mot. Il vous arrive de partir à l'étranger ou de partir tout court, pas forcément à l'étranger, pour écrire vos livres, pour vous inspirer de vos livres. Alors, on parlait tout à l'heure du tome 2 d'Alma où vous projetez d'aller à Saint-Domingue dans les Caraïbes. Et puis, pour Van Gogh, vous êtes allé dans les îles Éoliennes, justement, en Italie. Vous êtes parti 4 mois.
Ouais, c'est le lieu natal. Alors j'étais sponsorisé par Toby, mon livre précédent. Ça qui est extraordinaire, c'est qu'un livre aussi par son accueil me permet d'écrire le suivant. Moi, je signe jamais de contrat avant d'avoir fini le livre que j'écris. Donc il faut que ce soit le livre précédent qui me permette d'avoir la liberté d'écrire. Et là, j'étais parti donc avec ma femme, ma fille. Ma fille avait trois ans. Non. Là, on est parti à trois. Fille avait 3 ans. On a pu gratter un peu de temps avant l'entrée à l'école. Et on est arrivé en août, donc au moment où les gens commençaient à partir de ces îles éoliennes qui sont... Moi, je parle souvent des archipels. D'ailleurs, j'y pense tout à coup. Les Caraïbes s'en est aussi. Et on s'est installé dans la maison qui serait la maison natale de Van Gogh, donc ce héros que j'allais écrire pendant les nombreuses années après, parce que c'est l'écriture, quelque chose de très lent chez moi. Mais j'ai construit mon histoire dans ce cratère de Polara, là, sur l'île de Salina, qui est au milieu des éoliennes. Et puis quand un jour, fin novembre, le soleil ne se posait plus sur la maison, parce que c'est des cratères effondrés là, sur la mer, et on est un peu dans un creux, il y a un moment où tout à coup le soleil ne passait plus sur la maison, et parce qu'il y a l'ombre des falaises, et à ce moment-là, on est reparti, on a pris notre petit bateau, et on est rentré chez nous.
Entre voyager pour le plaisir et voyager pour le travail, est-ce qu'il y a une grosse différence ?
Oui, très grande. Mais de toute façon, le voyage, pour moi, c'est encore quelque chose qui n'a de sens que si je me promets de revenir, si j'imagine que je construis une maison là, que je... C'est-à-dire, j'aime moins la découverte que l'idée que je prendrai mes habitudes dans cet endroit. Et d'ailleurs, les vrais voyages que j'ai faits, c'était forcément plusieurs mois ou plusieurs années. Et j'ai, en ce moment, pas en ce moment, depuis quelques mois, parce qu'on sait qu'on voyage moins, et c'est intéressant aussi, ça plonge les racines plus profond dans la terre. Mais depuis quelques années, je voyage beaucoup pour suivre mes personnages, et parce que je suis invité par mes éditeurs à l'étranger. Et en fait, je vois pas grand-chose. J'arrive, heureusement, j'ai le raccourci de la connaissance qu'ont les gens de mon travail, qui fait qu'ils ont l'impression d'être très intimes avec moi, de me connaître parfaitement. Donc tout de suite, je suis de la famille, comme cette jeune fille qu'on entendait là au Canada, dans le Manitoba. J'ai l'impression d'être de la famille. Donc il y a quand même une concentration de vie qui fait que ces voyages ont une certaine densité.
Timothée de Fombelle prend la route avec nous jusqu'à 15h. Et ensemble, on va écouter l'un des derniers titres de Jeanne Haddad, Off My Back. Vous écoutez France Inter. Is on me.
the human word just doesn't fit. They wrote my story for me. Get off my back, baby. I wanna do some more. I'll take some authority back. What am I waiting for? Say, aren't you hungry?
Avec l'auteur jeunesse Timothée de Fombelle. Vous avez aussi écrit des pièces de théâtre. Le point commun avec le fait d'être prof, que l'on partage aussi avec le fait de parler dans un micro, c'est de travailler pour être entendu. Qu'est-ce que vous voulez que l'on entende de vous ?
Je crois que... En fait, on entend une voix qui est adressée dans la littérature jeunesse. Elle est adressée à ces jeunes lecteurs. Les romanciers souvent se défendent de s'adresser à quelqu'un. Ils écrivent pour vider leur sac, pour raconter quelque chose, pour dire quelque chose, pour crier. C'est vrai que j'ai toujours sur l'épaule ce lecteur là, et je pense à lui. Je pense que j'ai envie de rendre la vie plus belle. Et j'ai envie de rendre la vie plus dense, plus intense. Et puis j'ai envie de pas être tout seul. C'est pour ça que je m'adresse à quelqu'un d'ailleurs. Mmh. C'est que j'ai envie de partager ce que je crois, dont les toutes petites choses de la vie qui peuvent en être des grandes.
Dans Alma, le vent se lève, vous parlez de la traite négrière. Le portrait de cette semaine devrait particulièrement vous parler, Timothée de Fombelle, puisque j'ai absolument pas du tout de liaison. J'ai une mission pour vous. Chaque jour, pour terminer chacun sa route, on fait le portrait d'une exploratrice. En l'occurrence, toute cette semaine, le récit de la vie d'Harriet Tubman. Hier, on a raconté comment elle a fui son Maryland natal, où elle était esclave. Pour chasser, elle réussit à prendre la route. Timothée de Fombelle, vous êtes, pour les prochaines minutes, Harriet Tubman. La voici qui s'arrête là où le révérend de son église natale lui a indiqué. Un homme qui lui indique la route à suivre, après lui avoir donné à manger et une couverture pour se protéger. Elle marche plusieurs jours, reste sans manger, et quand, après 160 km de fuite, elle atteint la Pennsylvanie, elle est épuisée. Elle est accueillie, le long du chemin, par des membres d'un chemin de fer souterrain. Permettez-moi ce détour historique. L'Underground Railroad... Avec mon accent, c'est alors un réseau informel aidant les esclaves à fuir en partant vers le nord des États-Unis puis vers le Canada. On estime qu'environ 100 000 esclaves, entre 1810 et 1860, se seraient échappés en utilisant ce réseau. Ce n'était en réalité ni sous terre, ni un chemin de fer, mais pour brouiller les pistes, on parlait de stations pour parler de toutes les maisons où, en douce, des milliers de fugitifs se cachaient le temps de quelques heures avant de repartir. C'est cette route qu'emprunte notre héroïne. Quand elle arrive à Philadelphie, un homme lui propose de changer de nom. Elle prend alors le prénom de sa mère, Harriet, et garde le nom de son mari, Tubman. La légende peut commencer. Très vite, une fois en sécurité, Harriet se sent seule.
J'étais un étranger dans un pays étrange. Et ma maison, après tout, était dans le Maryland. Parce que mon père, ma mère, mes frères, sœurs et amis étaient là. Mais j'étais libre et il devait l'être.
C'est plus qu'une phrase lancée à la volée. Harriet ne supporte pas d'avoir laissé derrière elle son mari, ses parents, sa famille. Surtout en ne les sachant pas tous libres. Alors elle économise de l'argent pendant un an, travaillant comme cuisinière et domestique chez une femme qui deviendra son amie, pour revenir clandestinement dans le Maryland.
Ceux qui l'ont accueilli à Philadelphie sont contre. Comment une femme, seule, qui plus est, pourrait prendre le risque de faire la route dans l'autre sens? Pire, de chercher à faire évader ses pairs. Mais à quoi bon la liberté si elle n'est pas partagée?
Swing love,
sweet champion,
sweet champion.
Pour réussir à libérer ses pairs, Harriet Tubman se déguise. Parfois en vieille dame, parfois en homme, souvent une Bible à la main pour feindre le fait qu'elle sache lire. Souvent dans des habits sombres. Quand elle arrive sur les lieux, elle se cache et elle chante. Des chants religieux à double sens, que l'on appelait des spirituals.
Le chemin est sombre et plein d'épines, que suit le pèlerin, mais au-delà de cette vallée de larmes, se trouvent les chants des jours sans fin.
Bien avant Internet, le message ne tarde pas à se répandre. Si l'on entend ces chants, c'est que potentiellement la fuite est possible. Alors la première fois qu'elle retourne au Maryland, Harriet chante. Plusieurs de ses frères la suivent, à leur tour, mais son mari, entre-temps, s'est trouvé une autre femme. Elle gardera quand même son nom. Les propriétaires sont furieux, de plus en plus à mesure que les années passent. Rendez-vous compte, entre 1849 et 1859, Harriet Tubman va effectuer 19 voyages dans les États esclavagistes et va réussir à libérer 300 personnes, 300 esclaves, dont ses parents. Au chemin de fer, ils sont admiratifs.
J'ai été chef de train du chemin de fer clandestin pendant 8 ans. Et je peux dire ce que la plupart des conducteurs ne peuvent pas dire. Je n'ai jamais fait sortir mon train de la voie et je n'ai jamais perdu de passagers.
Malgré les courses-poursuites, les multiples dangers, la mort frôlée en permanence, Harriet Tubman n'a jamais été capturée et n'a en effet jamais perdu un seul esclave au cours de ses traversées. Ceux qui doutaient, elle les menaçait avec son pistolet pour qu'ils restent dans le rang. Mais évidemment, la Moïse Noire, comme on la surnomme à l'époque, ne fait pas que des heureux. Sa tête est mise à prix pour 40 000 dollars de récompense, une somme gigantesque qui ouvre les appétits. La suite, demain. Et dans ce Chacun sa route, j'ai une pensée pour une autre femme qui s'est beaucoup battue dans un autre registre. L'avocate Gisèle Halimi est décédée, on l'a appris ce midi. Et quelle femme, Gisèle Halimi, merci madame. Timothée de Fombel, cette émission s'appelle Chacun sa route, chacun sa route, chacun son chemin. Quel message passer à votre voisin?
Ne bouge pas, ouvre les yeux, regarde autour de toi, imagine-toi en voyage chez toi. Et ouvre les oreilles et les yeux.
Quelle douceur et quelle voix. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Vous m'avez fait voyager, Timothée de Fombel. Merci beaucoup. Chacun sa route, épisode 22. Revenez demain. Demain, on va s'intéresser à l'ADN. Que dit-il de nous? Que dira-t-il de nous? Et puis, nous fuirons les geôles russes, rien que ça, avec l'auteur Johann Barbero. Merci à Thomas Omaro, Vera Loudérid, Céline Dubois. Bon anniversaire, Céline. Louise Cognard, Claire-Sophie Collet et Claire Tesser qui ont préparé cette émission. C'est avec vous, auditeurs, que l'on se quitte, un souvenir musical lié au voyage. Faites comme Allison aujourd'hui.
Alors la chanson qui me fait voyager, c'est Brutalisme de Flavien Berger. C'est une chanson qui évoque un voyage avec mon amoureux à Gênes. Et c'est un voyage au mois d'août. Il fait très chaud, il fait très beau et là, cette chanson Brutalisme, elle a cette couleur-là en fait, cette couleur de l'Italie, de la chaleur et du bleu de la Méditerranée.
Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près.
Bonjour Jean Morel.
Bonjour.
Vous, la Méditerranée, ça vous fait penser à quoi?
Ah, ça me fait penser à beaucoup de bleu et en fait un dégradé de bleu. Tout simplement.
Haute Fidélité, c'est bleu aujourd'hui ou...
C'est très bleu et puis c'est des morceaux classiques comme par exemple Redemption Song de Bob Marley mais réinterprété par Johnny Cash et Joe Strummer. Voilà.
Et c'est dans quelques secondes sur France Inter. À tout de suite.
À tout de suite.